Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va à Réu ?
Bonjour tout le monde.
Salut.
Bonjour Antoine.
Salut.
Pour une fois qu'on est tous réunis dans cette petite salle de rue, ça fait vraiment plaisir. Avant qu'on parle du gros sujet de la journée, justement, bah c'est pas si souvent qu'on fait une réu tous ensemble, ce qui est presque un peu bizarre puisque c'est quand même censé être le but de ces réunions. Comment on sent cette fin d'année à écran large, Geoffrey, peut-être pour commencer ?
Je sais pas spécialement. On va dire qu'avec ce qui s'est passé. Non, mais chaque année nous passe dessus comme un rouleau compresseur. Donc cette année, comme les autres, nous roule dessus. Et vivement que 2024 fasse pire, sûrement. Donc, je sais pas. Je passe le bâton de parole. Est-ce que quelqu'un a une émotion plus positive à donner ?
Merci pour ce message très optimiste. Alors moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas spécialement au top de ma ponctualité ou de ma fiabilité au sein de la rédac. Mais voilà. Mais quand même, moi, ça fait du coup. C'est la première année que je passe avec vous. Finalement, c'est la
première
année.
Mais oui, c'est vrai. Fait-on un an de Judith.
Voilà, vraiment en beauté aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça quand même cool. Je vois bien ce que tu veux dire par le fait que les années nous roulent dessus, etc. Enfin, surtout sur vous, du coup. Mais malgré tout, moi, je trouve que c'est quand même une chouette expérience à vivre ensemble, on va dire. Bon, c'est très cucu comme message, mais je sais pas. Je trouve que c'est agréable de vivre ces épreuves ensemble avec des gens avec qui on a des points de vue hyper complémentaires. Et cette année, en termes de points de vue complémentaires, on a été mis à l'épreuve quand même. Je pense qu'on va le voir dans
c'est
ces
vrai.
Deux parties.
C'est
passionnant aussi, quelque part.
Il disait pareil sur le radeau de la Méduse, je pense.
Ouais, les mecs, c'était une super expérience.
C'est bien, on voit que l'optimisme est d'un certain côté de la table avec Geoffrey et Mathieu ça... d'un côté.
Là, si je dis ça, parce que c'est la fin de la première année.
Et Déborah, peut-être ?
Je fais clairement pas partie de la team optimiste, vu que chaque fin d'année, c'est assez compliqué pour nous, entre les tops, les flops, les dossiers, les vidéos et tout, maintenant les réus. Mais, non, il n'y a pas de mais, en fait, je pense à Aquaman 2 et Rebel Moon qui vont sortir, genre, le 20 et 25 décembre. J'ai déjà envie de mourir, mais bon, ça va, je m'occuperai pas de Rebel Moon, donc je respire un peu.
En fait, il n'y a personne optimiste, j'adore. Alexandre, peut-être que tu...
Attendez, j'arrive. Non, c'est quand on disait que ça nous roulait dessus, c'est pas forcément que les années. Pour moi, c'est vraiment le mois de décembre et le mois de novembre, on va dire. Parce que c'est toujours hyper chargé, parce qu'on doit préparer plusieurs semaines en avance, parce qu'on part en vacances quand même. Donc voilà, il faut quand même un peu se reposer. Et là, quand il faut préparer 2 semaines en avance, tout récapituler, de savoir si on peut tout intégrer dans les tops, parce qu'on peut pas tout voir en avance, mais en même temps... On peut pas non plus préparer notre top le 31 décembre parce que sinon c'est trop tard quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est ça qui il y a une énergie un peu, tu vois, genre je pense qu'on n'est jamais plus proche qu'en décembre dans l'équipe, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu cool aussi.
Plus proche de quoi, du burn-out, de la fin de...
plus proche dans le sens soudé, tu vois.
Oui,
et ça c'est beau.
C'est beau.
Enfin moi je trouve ça beau, peut-être que d'autres ici non.
Mais justement, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que 2023 touche à sa fin et donc comme chacun sait, ça veut dire deux choses. On va beaucoup trop entendre All I Want for Christmas de Mariah Carey et on va voir plein de classements des films de l'année, ce qui veut aussi dire qu'à ce moment-là, donc Alex rentre dans une période de transe d'osmose.
Absolument.
Avec Excel pour organiser un top à partir des classements de toute la rédaction, sur lesquels du coup on va revenir, on va faire le top 10 pour histoire qu'on en parle tous ensemble de ce top 10 global de la rédaction à partir de nos tops respectifs. Mais avant peut-être d'entrer dans le dur, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que 2022 c'était la première année où on sortait du Covid, donc il y avait aussi ce truc où plein de films étaient retenus. Moi je trouvais que c'était une année assez exceptionnelle 2022 en termes de ciné et en termes de variété de cinéma. Est-ce que là 2023 c'était un peu la même chose? Est-ce que c'était une bonne année de cinéma et est-ce que c'était compliqué peut-être d'organiser ce top ou pas, selon vous?
Même si c'est vrai qu'on a vu pas mal de grosses dopes cette année, surtout côté blockbuster, je pense pas que c'était une mauvaise année de ciné. Enfin, c'était une année comme les autres, avec des hauts et des bas. Et bon, après, j'avoue, il y a eu un film de Miyazaki et de Wes Anderson qui sont deux de mes réels préférés et qui sont dans mon top.
Ça commence, j'en ai parlé.
Donc forcément, ouais, pour moi, j'ai bien aimé l'année. Et surtout, c'était une très belle année pour le cinéma d'animation, voilà, où il y avait plein de projets très différents, de genres différents, d'artistes différents qui étaient très attendus et beaucoup ne m'ont vraiment pas déçu. Donc là-dessus, je suis très contente.
Et qui t'a parlé de tes obsessions, c'était pas une belle année pour Stallone aussi?
Je te hais.
Moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne année, probablement pas la meilleure année de... Bah, je pense que l'année dernière c'était mieux, mais moi j'ai trouvé, enfin je pense que j'ai vu le plus grand film de cette décennie, on en parlera, je pense qu'il est dans le top 10, voilà. Mais pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs films de ces dernières années, voire de ces 10 dernières années, avec Leila et ses frères par exemple. L'année dernière je trouve que c'était une énorme année, Godland aussi, donc il n'y a pas autant de grands films comme l'année dernière, mais il y a eu du très bon, il y a aussi eu du très très mauvais, mais bon.
Ah, je te rejoins un peu, moi je trouve que 2022 était une année tellement exceptionnelle à tous les niveaux, où t'avais autant du blockbuster indien culte que Leila et ses frères, Asbestas, enfin Avatar 2, t'avais en plus dans tous les genres et dans toutes les nationalités des trucs tellement différents que moi je m'y suis retrouvé, c'était une des rares fois où un top était aussi varié. Là c'est aussi le cas cette année, mais il y a en même temps eu certaines déceptions auprès de cinéastes très attendus. Bon, par exemple je suis pas aussi enthousiaste sur Wes Anderson, mais voilà, mais c'est... En même temps, il y a eu tellement de belles choses que je trouve qu'on s'y retrouve tous.
Ouais, moi j'ai vraiment du mal à dire meilleure ou mauvaise année. Je trouve que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu un précipité de tout ce qui a été délayé par le Covid, comme tu disais. Mais bon, finalement, on a quand même la chance de vivre dans un pays où il y a dizaines de sorties salles par semaine, plus encore des millions maintenant de services de SVOD. Donc on en vient à tes goûts, tu vois, de ce que toi tu vois. J'ai tendance à dire que s'il y a des films... Si j'ai aimé moins de films une année par rapport à une autre, c'est juste que je les ai pas vus, les films que j'aurais voulu aimer. Et après c'est toujours hyper difficile de faire un top, je trouve, dans tous les cas. Enfin moi en tout cas je galère, c'est pas le cas de certains autres.
Attends, c'est pas parce que mes tops sont préparés tôt ou que je l'ai
je l'ai fait dès le mois de janvier.
Bah, en fait je commence à classer et après en fonction je classe en fonction de quand je les vois et ceux que je retiens peut-être qu'ils peuvent être au tout début très haut dans mon classement, mais au fur et à mesure ils redescendent parce que en fait j'en ai plus aucun souvenir ou qu'ils restent pas en tête. Mais c'est pas plus facile pour moi de faire un top, hein. je n'y prends pas au dernier moment comme vous, c'est tout.
non, je pensais surtout à Geoffrey qui aime 7 films dans l'année, alors c'est compliqué pour lui d'en trouver 15. C'est-à-dire que du coup il doit dire mais qu'est-ce que j'ai trouvé bof, mais qui peut quand même être dans un top de l'année, et puis il les met à la 8ème position, quoi.
C'est comme les membres de l'équipe, hein. Il y en a très peu que j'aime bien, mais bon, faut bien les foutre là, donc.
Moi j'ai envie de dire, alors sur la vision globale de l'année, je pense que vous avez dit ce qu'il y avait à dire, mais c'est vrai que moi il y a quand même des moments, il y a eu des moments de grâce on va dire qui m'ont touché, parce que je pense notamment à une période où je pense en l'espace de 2 semaines en projection presse j'ai dû voir 3 des films qui ont terminé dans mon top 10, mais qui me plaisaient vraiment dans le sens où ils parlaient à certains de mes goûts très spécifiques et très personnels et très subjectifs, mais où du coup il y avait vraiment eu des moments comme ça où je me dis waouh, mais quelle année. Et alors c'est des films plus confidentiels, on est d'accord que sur les blockbusters c'était peut-être moins intéressant cette année, mais voilà, je me suis dit, il y a quand même plein de pépites, vraiment, qui sont pas forcément les films les plus distribués, on est d'accord. Mais je pense qu'on était vraiment pas en rade de petits trésors à aller dénicher à droite et à gauche. L'année dernière, je me rappelle que moi, j'avais été spécialement soufflée par EO de Jerzy Skolimowski. Je sais pas si on a atteint complètement ce niveau cette année, mais ouais, enfin, pour moi, il y a quand même vraiment du lourd.
On est un peu méchant avec les blockbusters depuis tout à l'heure, mais j'ai quand même trouvé que, par exemple, un cas sur Barbie, ça a ouvert plein de débats, on en a discuté pendant super longtemps, et je trouve que c'était un blockbuster qui, mine de rien, dans toutes ses imperfections, était assez riche, parce qu'il a réouvert les discussions, là où, avec les Marvel, on a peut-être un peu trop tendance à les fermer en se disant « bon bah c'est de la merde, on passe à autre chose ». Donc au moins là-dessus, je suis très contente.
Je sais pas pourquoi tout le monde rit, mais c'est marrant.
On avait la main en même temps, okay. Mais vas-y.
C'est un débat de ouf.
Non mais je pense qu'on parlait plus blockbuster de grand spectacle dans ce sens-là. Parce que vraiment, il n'y a eu aucun grand spectacle cette année. Hein. Je ne me vois pas par rapport à Avatar 2, par rapport à
Top Gun.
Plus qu'il y a eu Top. Ouais, pour moi, il ne faut peut-être pas qu'on puisse non plus abuser. Mais c'est vrai que c'était du spectacle, on va dire, de bien fait. Mais Mission Impossible 7, c'était franchement pas ouf cette année. Les Marvel, les DC, c'était catastrophique. Voilà,
donc on va y revenir après, ça, ne brûlez pas trop les étapes.
Alors moi je trouve pas que Barbie soit un film qui présente une richesse sous aucun aspect, mais par contre en termes de grand spectacle, je sais qu'on n'est pas sur une échelle de films aussi ambitieux que Avatar 2 ou Top Gun, mais quand même moi je sauve un petit peu sur les derniers mois là, le dernier Hunger Games. Et la balade de mince
du serpent et de l'oiseau chanteur.
Ouais, voilà, exactement.
Titre de monde.
Bon, c'est pas un film que j'aurais intégré dans mon top, mais je trouve que ça c'est du vrai bon blockbuster qui se défend avec des effets visuels qui met vraiment la misère à Marvel, et j'ai trouvé que ça faisait du bien.
Je trouve globalement que pour clore ce débat sur le blockbuster, etc. Certes, moi, enfin, il y en a que j'ai aimé, etc. Comme chaque année, mais j'ai l'impression que à l'échelle mondiale même, il y a une sorte de prise de conscience d'aller chercher ces grands spectacles ailleurs. Donc, on a parlé du cinéma indien qui a explosé avec RRR l'année dernière. Cette année, le succès de Godzilla Minus One, il y a quelques semaines, même cette semaine, même aux États-Unis, fait beaucoup parler de lui. Le cinéma indien est toujours présent avec Jawan, par exemple, qui a manqué de peu d'ailleurs le
qui
classement.
Qui était dans mon classement personnel.
Ouais, voilà. Donc, ouais, voilà. Le spectacle, il est allé chercher partout avec un peu de curiosité, et les gens s'en rendent compte, et je trouve ça cool.
Ouais. Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'on parle de cette variété-là, mais je pense qu'elle est particulièrement présente dans la variété de nos tops personnels et du coup, comment ça se retranscrit dans le top global, donc que Alex a permis d'obtenir avec son Excel de la mort. Et du coup, bah, entamons avec la 10e place de ce classement, qui est un film français, Je verrai toujours vos visages, et c'est particulièrement l'un des coups de cœur de Geoffrey. Donc Geoffrey, j'ai bien envie de te laisser la parole sur ce film-là.
Mais en plus, c'est marrant parce que je crois que c'est le seul film du top qui n'a pas de critique sur le site Écran Large. C'est un peu honteux, mais on l'a raté à l'époque, on n'avait pas le temps, donc on n'a pas fait de critique, donc je l'ai rattrapé comme les gens normaux dans une salle de cinéma, sachant qu'à côté il passait Donjons et Dragons, donc ce film étant très silencieux, c'était un peu le bordel à côté, on entendait Michel Rodriguez hurler, et pourtant j'ai trouvé ça super. En fait, si on résume le film, je pense que ça peut sembler très cinéma d'auteur chiant pour plein de gens, parce que c'est des gens qui sont littéralement en cercle et qui parlent pendant 1h30, 2h, ils parlent de leurs émotions, ils essayent de se comprendre, de s'écouter. Le sujet du film, c'est ce qu'on appelle la justice restaurative. C'est un truc qui a été mis en place en France en 2014 et qui permet à des victimes d'être confrontées à des agresseurs, pas leurs agresseurs à eux et à elles, mais des gens qui ont commis des délits, des infractions qui sont un peu similaires à ce à quoi les victimes ont été confrontées. Donc dans le film, il y a par exemple quelqu'un qui a été braqué à main armée dans un magasin et légèrement traumatisé. Un homme qui a été chez lui, il y a eu un braquage aussi, donc les gens sont rentrés dans la nuit, l'ont attaché et tout ça. Il y a une femme qui a été mise à terre dans la rue parce qu'on lui a tiré son sac à main, donc elle a été traînée sur plusieurs mètres. Et dans le film, on met en image ce truc de cercle de parole où en fait on permet à des gens de parler, d'écouter l'autre, d'essayer de comprendre comment l'autre a pu faire ça, de comprendre les conséquences des actes de violence. Et alors dit comme ça, ça paraît un petit peu chiant et même un peu bisounours le côté on va permettre à des gens de penser leur plaie en parlant blabla et tout ça. Je suis le premier à vouloir rigoler de ça et être cynique, mais le fait est que j'ai trouvé ça magnifique. En fait, j'ai adoré la manière dont la réalisatrice et scénariste Jeanne Herry écrit les dialogues et l'attention qu'elle porte à l'intonation, au débit de parole, à la douceur des paroles. En fait, ce que je trouve magnifique, c'est le film part de à quel point les mots qu'on emploie sont importants pour faire passer des messages, pour communiquer à l'autre, pour rentrer en contact avec l'autre, mais aussi à quel point la forme qu'on emploie, donc vraiment la forme des phrases, l'intonation, comment on regarde l'autre, comment on bouge, comment on écoute, a une valeur extrême. Et le film, il essaie de faire ce truc un peu magique, enfin la justice restaurative mise en scène dans le film, essaie de faire ce truc un peu magique de, bah en fait, comment les gens font société, pour reprendre un truc très à la mode, comment t'arrives à coexister avec des gens qui ont rien à voir avec toi, comment t'arrives à un moment un peu hors de la société, dans un cercle un peu magique, à créer un lien avec des gens qui a priori sont aux antipodes de toi, sont peut-être ton ennemi absolu, comment t'arrives à essayer de comprendre, à écouter l'autre, et bah, du coup tu poses ta caméra et t'essaies d'écouter l'autre, t'essaies de regarder les autres. Moi je me suis senti un peu comme une petite souris, donc un truc que j'adore, de pouvoir écouter des gens parler comme ça, et vraiment la manière dont elle filme ça, c'est a priori très simple, parce qu'elle pose sa caméra et c'est des champs contre champs, donc un peu le béaba du cinéma et pas forcément très inventif sur le papier, mais la manière dont elle dirige les gens, dont elle écrit les dialogues, dont elle joue sur les silences, c'est vraiment bouleversant. Et à côté du cercle de parole, il y a le personnage de Adèle Exarchopoulos qui est sur une tonalité différente et qui est encore plus extrême parce que elle, c'est une histoire d'inceste. Et c'est comment tu peux aussi voir les limites de la communication. Donc c'est pas un film qui te dit communiquer, c'est bien, ça sauve la vie, ça sauve le monde. C'est au contraire à quel point dialoguer peut soigner des choses, mais peut aussi empirer, détruire des gens. Et je trouve que le film est extrêmement intelligent et subtil là-dessus. Donc vraiment énorme coup de cœur pour moi.
T'as très bien parlé du film, c'est très beau comment t'en parles. j'ai pas rattrapé ça comme des gens bien, c'est-à-dire que je l'ai vu sur Canal+, voilà, je l'ai rattrapé sur le tard. J'étais pas forcément emballée en lançant le film. En fait, j'avais beaucoup de préjugés sur le film. Je m'attendais à ce que ça allait être un tire-larme, voilà, le drame français d'auteur qui se pignole un petit peu sur les sentiments et tout ça. Et il y a cette sincérité en fait du film qui m'a complètement accrochée. Et j'ai trouvé surtout, comme tu disais, c'est cette réalisation très simple. Moi, je la trouve très pudique. Et étant donné que le film remet en avant la parole, c'est un petit peu l'inverse de l'exercice cinématographique où cette fois, tu dis plus que tu ne montres. Et ça, j'ai trouvé très beau aussi dans l'écriture. Miu Miu m'a complètement déchiré le cœur. Vraiment, c'est cette petite dame très mignonne qui... La culpabilisation, en fait, aussi de toutes ces personnes, je la trouve très belle. Surtout quand, de l'autre côté, il y a une absence de culpabilisation de la part des accusés qui vient avec le dialogue. Et surtout... Comme tu le disais, c'est pas quelque chose d'ultra candide où on va te dire il faut parler, ça résoudra tous les maux, parce que non, c'est absolument pas le cas. Il y a un moment, un personnage qui fait partie des personnes qui travaillent dans la justice restaurative et qui dit très clairement, alors moi, les braqueurs, il n'y a pas de souci, même parfois les assassins, mais par contre les violeurs et les agresseurs sexuels, eux, je peux pas. Mmh. Et il y a cette sincérité, il y a cette franchise de la part du film qui te dit pas que c'est la solution ultime, mais qui ouvre une porte, une solution possible parmi toutes. Et c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à être dans cet état à la fin du film, à réfléchir sur la place de la parole, à quel point en fait c'est intéressant de la mettre en confrontation quand t'es sûr de tes sentiments. Enfin, vraiment plein de choses, alors que je m'attendais vraiment à juste trouver le film sympa, à chialer un peu parce que le film fait tout pour que je chiale et que ça s'arrête là. Je m'attendais pas à le garder aussi longtemps en mémoire, à avoir par exemple les monologues de Leïla Bekhti, beaucoup qui me reviennent en tête. Enfin voilà, c'était très bouleversant, alors que je m'attendais à un petit truc très très mineur.
Ouais, mais moi je suis d'accord avec vous, je pense que vous en parlez encore mieux, vous en parlez super bien parce que vous les avez encore plus aimés que moi. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que c'est cette capacité... Je trouve que c'est difficile de faire... parce que le film est porté largement, uniquement, quasiment par la prestation des acteurs, puisque tout se joue dans la gestuelle, dans la tonalité, comme tu disais, dans juste eux, la manière dont ils reviennent, une forme de naturel pour se glisser dans des personnages totalement lambda à qui il est arrivé quelque chose d'incroyable dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. En fait, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que Jeanne Herry, elle soit capable de réussir là où a un peu échoué, je trouve, Women Talking. Mm-hmm. C'est-à-dire que Women Talking, moi j'ai beaucoup aimé le film de Sarah Polley, mais les discussions entre les personnages féminins dans Women Talking, elles pouvaient devenir assez frustrantes parce qu'elles s'arrêtaient très rapidement sur un sujet. Et puis d'un coup, on passait à autre chose, et puis il y avait une sorte d'ellipse où on sortait du cadre du huis clos, où elles discutent, etc. Et là, justement, au contraire, les personnages ont vraiment le temps de s'exprimer, pas forcément pour tout raconter, pas forcément pour régler absolument dans tous les détails leurs problèmes personnels ou les conséquences de ce qu'ont pu avoir les événements, mais... Rien que le fait que chacun s'écoute sans s'interrompre vraiment, ou alors quand on s'interrompt, même s'il y a cette histoire de bâton qui, au fur et à mesure, justement, se supprime parce qu'on a compris qu'on devait respecter l'autre et qu'il n'y a plus besoin, que finalement l'échange se fait de manière naturelle. Je trouve qu'il y a une belle progression vis-à-vis du message que ça a, de laisser la parole à l'autre sans forcément vouloir la dégrader, sans vouloir avoir un contrepoint vis-à-vis de ça. C'est vraiment très très joli, très délicat, et c'était un sujet casse-gueule quand même de juste laisser des gens autour de... Enfin, même il n'y a même pas de table, c'est juste des gens qui sont sur une chaise en train de discuter entre eux, et en fait ça marche super bien, ça reste en tête, et c'est si émouvant à certains moments, notamment la confrontation finale, que c'est super beau en fait.
Ah, la confrontation finale, je la trouve incroyable. C'est, la scène, elle est extrêmement casse-gueule parce que tu te dis, il y a deux issues, soit c'est bien, soit c'est négatif. Et il se trouve qu'il y a une porte de sortie différente que le film emprunte et qui te montre que, bah, en fait, c'est plus complexe que ça. Mmh. Et je trouve que vraiment, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, qui est encore une fois génial, il est vraiment bouleversant parce que justement, il ne tombe pas dans les travers de victime, revanche. Il n'y a pas un truc facile de les gentils, les méchants, et on prend la revanche, on reprend contre eux sur la situation. Le film accepte qu'il te montre qu'il y a des impasses. Parfois, il y a des relations, des choses qui sont beaucoup trop extrêmes, tu n'en sors pas. Et je trouve que la fin avec Adèle Exarchopoulos, c'est masterclass.
Ce que tu disais sur le statu quo, ça se voit sur le personnage d'Adèle
Exarchopoulos, pas mal.
Ça se voit sur le personnage d'Adèle, je la connais très personnellement, mais aussi bah, sur celle qui l'accompagne et qui du coup travaille dans la justice restaurative, où on voit bien que ce juste milieu, cette espèce d'utopie et de candeur sur on peut être des deux côtés, ça ne fonctionne pas puisque justement elle se retrouve à aussi bien accompagner la victime que son bourreau qui est son frère incestueux, donc pas rien. Il y a ça aussi, il y a cette émotion, mais sans la candeur qui porterait vraiment préjudice au message du film et qui s'incarne en fait à travers aussi bien les victimes que les personnes qui travaillent là-dedans, que les bourreaux. Enfin, c'est vraiment une vision très très complète et très juste d'un sujet, comme tu le disais Alex, particulièrement casse-gueule.
Et je trouve aussi Élodie Bouchèze géniale, celle dont tu parlais. En fait, je sais pas si vous avez vu Pupille, le précédent film, le deuxième film de Jeanne Herry, parce que je l'ai rattrapé après avoir adoré Je verrai toujours vos visages. Et c'est exactement le même travail. Alors, il y a Élodie Bouchèze, Gilles Lelouch, il y a plusieurs personnages, plusieurs acteurs qui sont là aussi. Et c'est le même travail sur la manière dont les gens parlent. J'ai rarement vu un cinéaste s'attarder autant sur la valeur de chaque petit mot et comment les gens prononcent leurs mots. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et vraiment, c'est un des seuls films où je me suis dit l'attention portée au dialogue, aux répliques est vraiment extrêmement passionnante.
Oui, en plus, c'est vrai qu'il faut quand même souligner effectivement le casting d'ensemble qui est assez impressionnant parce que vous parliez de Léla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, mais Saliane Brahim, Jean-Pierre Darroussin, Gilles Lelouch, Raphaël Quenard. Il y a quand même un casting.
Et Dali Ben Salah aussi qui est un des super bourreau en face qui est vraiment super bien.
Ouais, enfin qui est vraiment, voilà, film très intéressant en tout cas. Pour passer à la 9e place, on passe du côté américain avec un film qui était peut-être assez attendu dans ce classement puisque c'était l'un des films les plus importants de cette année, je pense, ne serait-ce qu'en termes de box-office aussi, puisque ça a été un peu la grosse surprise de cet été. C'est bien sûr Oppenheimer de Christopher Nolan. Bon, je me permets d'introduire là-dessus parce que forcément, moi, Nolan, ayant été un Nolan Zeus depuis ses débuts, je l'attends toujours pas mal au tournant. Et c'est vrai que sur celui-là, je craignais un peu qu'il se plante sur l'ambition absolue de ce truc-là et le fait de vouloir un film assez grand public qui pourtant est quand même un film de 3 heures. Où ça blablate beaucoup et au final je suis complètement moi bouleversé par le film. Je pense que c'est un de ses plus maîtrisés et c'est surtout la preuve que Nolan a vraiment évolué, je trouve, en tant que cinéaste depuis pas mal d'années. On a pas mal parlé de son utilisation de l'IMAX et de son utilisation du large format de la pellicule, mais en fait c'est au service de quoi, vraiment au service d'une histoire massive mais qui revient toujours à l'intime de ses personnages, qui filme le gros plan et qui utilise le gros plan et le visage de ces acteurs comme je l'avais pas vu depuis très longtemps. Ils en ont beaucoup parlé en promo comme étant cette idée de parler en fait de la création de la bombe atomique et de la culpabilité de Robert Oppenheimer comme quelque chose à explorer via le visage, justement via les doutes, les tourments de ce personnage là et en fait cette idée très belle de dire utilisons le grand format pour non pas filmer des paysages épiques mais le visage comme un paysage. Et ça peut être simple à dire sur le papier, mais je trouve que le rendu de ça est absolument génial. Et d'autant que Nolan est souvent connu pour ses montages assez, assez complexes, qui parfois peuvent un peu perdre le spectateur. Et je trouve que là où, depuis Dunkerque surtout, il utilise ça de manière très maligne, parce que le cinéma de Nolan est un cinéma de la perception. Et donc à partir du moment où c'est un cinéma de la perception et de la subjectivité, quand on parle d'histoire, ce qui était le cas sur Dunkerque et ce qui est le cas dans Oppenheimer, ça pose la question de se dire c'est quoi l'histoire. Et en fait, ce n'est que la perception, une somme de perceptions qu'on rassemble pour créer une sorte de roman qui est censé dire une forme de vérité. Et là, en fait, on a avec ce parallèle entre le point de vue d'Oppenheimer, celui de Lewis Strauss, donc le personnage de Robert Downey Jr., ces deux temporalités qui s'affrontent et en même temps, tout simplement, de se dire c'est le point de vue du créateur de la bombe atomique et pas des victimes de la bombe atomique. Il y a un truc tellement puissant qui se fait dans le récit que enfin moi j'en suis ressorti assez assez chamboulé. Je l'ai revu une deuxième fois évidemment pour le retravailler, j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir encore. Et voilà, c'est pour ça qu'on est encore autant marqué par le film.
Oui, bah moi je suis totalement d'accord avec toi Antoine, je vais pas reparler encore du film pendant 15 ans parce que j'en ai un peu trop saoulé la rédac. Vu que moi, toi tu l'as vu deux fois et moi je l'ai vu trois fois, ouais. Mais non, mais je me souviens de quand on est allé à la projection presse, j'en suis ressorti un peu. C'est tellement vaste en fait comme film, en étant resserré sur quelques événements, c'est la création de la bombe atomique et on va dire le procès, enfin qui est pas vraiment un procès, mais de Robert Oppenheimer. Et pour avoir lu le livre de Kay Bird et Martin G. Cherwin, c'est vrai que j'ai été assez impressionné dans la capacité qu'a eu Nolan à resserrer un livre qui fait du coup 1000 pages, hein, c'est un énorme bouquin, et qui réussisse à le resserrer en 3 heures, tout en englobant tellement d'informations grâce à un montage hyper... moi, je trouve le montage totalement dingue dans cette capacité à jongler entre les temporalités sans jamais vraiment indiquer quand on est au spectateur. Il n'y a pas d'indication de temps, jamais. Mais qu'on soit jamais vraiment perdu. Il y a énormément de personnages, mais il a la capacité, Nolan, d'avoir choisi des acteurs connus, justement, pour qu'on ne se dise pas ah, « Attends, sa tête, elle ressemble à machin. » Non, non, bah, les acteurs ont des têtes identifiables assez rapidement. Donc, très vite, on sait identifier qui c'est, même si on n'a pas, se souvient pas de son nom, etc. On sait d'où il vient, etc. Et à côté, le montage, du coup, ce que je voulais dire exactement, c'est ce jonglage entre le noir et blanc, la couleur, cette scission au milieu du film avec l'explosion de la bombe qui vient tout chambouler. C'est cette capacité à englober plusieurs temporalités vraiment ensemble pour montrer à quel point la création de cette bombe et le premier essai, le projet Manhattan, a vraiment... tout chambouler jusqu'à notre existence présente. Quand je vois tout le parallèle qu'il y a à la fin sur l'utilisation de la bombe nucléaire dans le monde, et qu'en fait, à vouloir... qu'ils avaient peur, quand ils ont testé cette bombe, qu'ils avaient peur que ça potentiellement, ça brûlerait toute la planète, non, quoi, non, dans une sorte de conséquences et conséquences. Et en fait, d'une certaine manière, c'est ce qui est arrivé. Et que le monde court potentiellement à sa perte, que Oppenheimer a créé le pire risque potentiellement pour l'humanité de se détruire elle-même parce qu'il fallait gagner cette guerre et parce qu'il fallait pas que machin. Je trouve ça assez bouleversant. À la fin, j'étais ébobie.
Oui, je suis terrassé à chaque fois que je revois la fin du film, même sur Internet.
Le fait qu'il y ait une sorte de parallèle immédiat avec ce qu'on peut ressentir, d'autant plus que le film est sorti un an après le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant, il y a Israël contre la bande de Gaza, le Hamas, etc. Donc, les questions nucléaires sont présentes plus que jamais depuis 20 ans, je pense. Dans la société, et donc ça me fait extrêmement peur, et en même temps je trouve ça bouleversant.
Oui, bah, je pense que je peux parler de manière un peu plus pragmatique parce que j'ai bien aimé sans avoir le... Moi je l'aurais pas mis dans mon top 15 par exemple, même si j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je l'ai vu, vous m'avez traîné plus ou moins à la Projo. J'ai eu la chance de le voir au Rex en 70 mm.
Bah, t'étais content du coup.
Et j'étais très content. Vous étiez à votre 7e visionnage, je pense. et quand je suis sorti, vous étiez en mode c'est alors. Mais non, ça a vraiment de la gueule. Et en fait, je suis assez étonné. Alors, bon, je trouve des défauts. Je trouve que la première partie est un peu mécanique, surtout avec le personnage de Florence Pugh, par exemple, actrice que j'adore et qui est très bonne d'ailleurs dans le film. Mais je trouve son personnage est un peu mécanique, quoi, voilà.
Les personnages féminins chez Nolan, hein.
Oui, non, bah, ça a jamais été son fort. Le personnage d'Emily Blunt, c'est pas ouf non plus, quoi. On avait mieux, mais en fait je suis étonné que ce film là ne soit pas le film qui allie un peu les détracteurs et les adorateurs de Nolan, car je pense qu'il il parvient à se... il y a une vraie évolution en fait dans son cinéma, là où on lui reproche un côté un peu hyper cérébral tape à l'œil qui a atteint des sommets dans Tenet. Là, il utilise vraiment sa vision de l'encastrement, du temps, etc., qui est un truc qui l'obsède, de manière beaucoup plus subtile, qui est au service d'une forme d'ambiguïté historique qui est beaucoup plus intéressante que dans même des films qui sont très appréciés comme Inception ou compagnie, ou même Dunkerque que j'adore également. Vraiment, et c'est pour ça que j'adore vraiment la dernière partie où c'est finalement un mec qui défend un mec qui défend un mec qui défend un mec dans des strates de récits comme ça. Et il utilise en plus le noir et blanc et la couleur. Et encore une fois, l'IMAX en ajoute aussi pas mal, comme tu disais, le format d'image en fait, qui donne vraiment une sorte de grandeur à des débats finalement. Ouais. Et je trouve ça assez malin parce que c'est pas du tout projeté dans ta tronche. T'es pas un, y a pas, c'est pas de la science-fiction. Il y a pas un moment où on va dire en fait on va dans le truc du truc du truc. Ouais. C'est toi-même en fait qui te plonge presque inconsciemment dans un système administratif et qui est finalement ce que c'est que la guerre en pleine dissuasion nucléaire, tu vois. Et je trouve ça franchement hyper malin. J'ai été assez surpris étant de ceux qui adorent son cinéma mais qui ont tendance à y voir quelque chose de très ouais, de vraiment une sorte de casse-tête un peu tape à l'œil, tu vois.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, je trouve qu'il y a depuis quelques films, je trouve qu'il est plus à l'aise, je le sens plus à même de se dire je peux épurer au maximum mon cinéma. Ce qui était le cas, pour le coup, du point de vue cérébral tape à l'œil dans Tenet. Mais là, je trouve qu'effectivement, il a ce truc où, bah, comme tu le dis, en fait, l'IMAX, il a beaucoup utilisé, évidemment, pour le côté spectaculaire, en particulier sur Interstellar. Et là, en fait, de pouvoir se dire, je me rapproche à nouveau des corps, je me permets d'utiliser le spectaculaire, mais pour effectivement, voilà, la séquence finale avec Jason Clarke, où la lumière, évidemment, en plus, s'émet pendant qu'il y a cette espèce de diatribe contre lui dans la salle de procès. Enfin, il y a un truc qui est ultra spectaculaire, alors que ça c'est pas censé l'être. Et en fait, le film, je trouve, te chope comme ça parce qu'il est, voilà, je trouve Nolan de plus en plus dans la maîtrise de son outil et donc par extension de sa narration aussi.
Et du coup, Antoine, Alex, c'est-à-dire que c'est dans votre top 3 de Nolan alors, vu comme vous l'adorez ?
Moi, ouais, clairement. Je pense que c'est vraiment un de mes films préférés de Nolan. Je pense qu'au-dessus, il y a juste Interstellar, je pense.
Moi, c'est compliqué parce que Dark Knight et Inception ont une place si importante dans mon cœur, mais plus le temps passe, plus je trouve que Dunkerque est peut-être son plus grand film. Et en fait, je trouve qu'Oppenheimer est dans la même continuité. C'est ça qui me passionne dans le film. Voilà, ce rapport à l'histoire, ce rapport à comment le récit déconstruit de Nolan sert en fait à parler de perceptions diverses du monde et de l'histoire. Et beaucoup de gens ont parlé de la fameuse scène qui est majeure dans le film de après la bombe. Et donc Oppenheimer qui voit ces gens qui l'acclament alors que lui voit le monde tout flou autour de lui et comprend bien qu'il porte le poids du monde sur ses épaules à ce moment-là. Et beaucoup ont reproché qu'on ne voit pas le point de vue japonais, mais évidemment qu'on ne doit pas voir le point de vue japonais. Nolan a écrit le script à la première personne, il tient à cette pure subjectivité du personnage, et à d'ailleurs le fait qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé à Hiroshima et qu'on lui a dit ce qui s'était passé qu'après. Y a un truc que je trouve génial dans cette façon d'aborder voilà, le point de vue d'un homme dans un contexte aussi énorme et voilà, et gargantuesque par l'IMAX en plus.
Ouais, c'est d'ailleurs aussi ce qu'on lui avait reproché sur Dunkerque, qui est exactement dans le même cas, c'est-à-dire que s'il ne représente pas le point de vue des Français, c'est parce qu'il s'inscrit dans une sorte de fuite totale des Anglais qui eux-mêmes en fait n'en ont rien à foutre, enfin, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas aux gens qu'ils laissent derrière eux, et ça rend la chose presque plus tragique encore, tu vois.
Ouais. En tout cas, on pourra en parler des heures, évidemment, parce que c'est vraiment un des films que vous avez plus marqué cette année.
Mais s'il vous plaît, n'en parlez pas des heures, on a tout de
suite. Certains en ont marre de la rédaction. Donc, passons au numéro 8, et on passe du côté du Québec, avec un film qui nous a aussi pas mal surpris, une des grandes surprises de Cannes cette année, à savoir Simple comme Sylvain de Monia Chokri.
Oui, mais du coup, je prends le relais, parce que je pense que je suis celle qui a le plus aimé le film parmi nous tous. Bon, vu que vous ne l'avez peut-être pas tous vu, je vous resitue un petit peu. Donc, c'est l'histoire de Sophia, qui est une professeure de philosophie à Montréal. Elle vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. C'est un petit peu plan-plan entre deux, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Sylvain, duquel elle va tomber éperdument amoureux.
J'ai déconnecté 3 secondes et je me suis retourné et elle a dit The.
les accords, c'est important, les enfants. Allez à l'école.
Amoureuse, donc, du moins, ça c'est ce que le film peut laisser penser. J'ai adoré ce film de Monia Chokri parce que elle a ce truc de vouloir tordre les relations sentimentales ou amicales. Et moi, les relations tordues, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un thème qui me parle beaucoup, qui me fascine beaucoup. La limite très, très mince entre haine et amour et à quel point on peut très facilement basculer d'un côté comme de l'autre, voilà, c'est quelque chose qui me touche et je trouve qu'elle a une grande sensibilité, une grande justesse sur ces points-là. Parce qu'en fait, elle nous prend deux caricatures, un petit peu le rat des villes et le rat des champs, deux caricatures qu'elle va porter dans une fausse histoire d'amour. Parce que moi, je le vois vraiment comme tous les codes de la comédie romantique, mais qui n'en est pas une, parce qu'il y a toujours cette ombre qui plane sur ce couple où on a un petit peu du mal à percevoir la complicité ou ce qui peut faire en fait qu'on croit à un couple à l'écran. D'un début à l'autre, Monia Chokri pour moi, j'ai l'impression qu'elle ne croit pas en ce couple. Moi, quand je regarde le film, je ne crois pas en ce couple. Et du coup, je vois juste la chute libre qui est en train.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
De se passer sous couvert de baisers, de bisous et de on fait l'amour dans n'importe quelle pièce parce qu'on est super amoureux. J'ai trouvé ça vraiment très puissant, surtout cette fin qui là pour le coup est un statu quo beaucoup plus intelligent où en fait c'est l'accomplissement et l'épanouissement dans la solitude et pas forcément dans les modèles hétéronormés qu'on veut absolument suivre dans notre société. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort dans la perversion de tous les codes de la comédie romantique qu'il peut y avoir. Tu vois, je sais, par exemple, Promising Young Woman était exactement sur ce credo-là de pervertir des motifs qui sont pourtant très communs. Et là, la bourgeoise qui s'éprend du paysan sexy avec le torse velu pendant que son mari il est pas capable de changer une ampoule. On est sur des clichés, mais un cliché qui est porté avec tellement de sensibilité, de justesse. Je reviens sur les deux mêmes mots, mais c'est parce que c'est vraiment ce qui me vient en premier quand on parle de ce film. Et aussi, une façon de représenter et de caractériser le désir féminin que j'ai pas forcément vu aussi bien dans d'autres films où son female gaze, donc qui est l'inverse du male gaze, le regard masculin sur les femmes, qui est tellement bien menée, parce qu'on a des scènes de sexe qui sont quand même très très crues, mais avec une caméra qui est... Elle est pas pudique. Elle est... Je saurais pas exactement choisir le mot, mais en tout cas elle est pas tournée vers les attributs sexuels des personnages, mais plutôt vraiment sur le désir qui se lit sur les visages. Et voilà, elle a une façon de représenter la communication aussi pendant les scènes de sexe que je trouve assez incroyable. Voilà, c'est un des premiers films, je pense, où j'ai vraiment vu un personnage féminin dire non un petit peu plus à gauche, là maintenant tu mets ton doigt. Enfin, c'était vraiment très beau dans la façon, très simple dans la façon de l'amener, ou dans la non-communication aussi, quand on a ces personnages qui parlent les uns par-dessus les autres pour raconter des banalités, où on est vraiment dans la rupture avec l'autre, là où avec Sylvain, on sent que cette femme qui conceptualise l'amour plus qu'elle ne veut l'expérimenter va trouver une porte de sortie, mais qui est une porte de sortie qui l'amène vers quelque chose d'autre et pas le couple marié, enfant, en gros tout le modèle qu'elle rejette. Enfin bref, voilà, c'est un super film que j'ai envie d'étiqueter féministe parce qu'il parle très bien des femmes, de leurs désirs et de leurs aspirations.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai vraiment adoré aussi. J'avais déjà adoré Babysitter l'année dernière, que j'avais rattrapé, je pense, trop tard pour l'incorporer à mon top, mais il aurait pu y être. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Chokri, et tu l'as un peu mentionné, c'est le fait que finalement, c'est des films relativement sociaux, même si c'est un peu des comédies. Enfin, je trouve c'est très drôle, hein, simple comme Sylvain. Et elle échappe à, je trouve, une tendance du cinéma populaire dit social, donc qui veut exposer une situation d'actualité, parce que bon, souvent ça parle des rapports hommes-femmes, etc. Mais qui raconte une histoire et qui, par le biais de l'histoire, crée une sorte de conclusion. Alors souvent, l'exemple que je prends, c'est le scandale, là, tu sais, le truc américain avec Nicole Kidman et tout le star system derrière, ou qui parle du coup d'un réel cas de l'agression sexuelle à la Fox, je crois, c'est... le film est très académique, etc. Et en fait, c'est un film qui veut raconter, se placer dans le post-MeToo, comme on dit maintenant un peu. Et en fait, à la fin, elle gagne. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un vrai happy end, il y a une vraie conclusion. Et du coup, il y a un peu cette idée de, voilà le problème, on est en train de le bastonner, tu vois. C'est en mode MeToo drop tout 0%, quoi. Et je trouve que chez Chokri, il y a un truc très cool, c'est qu'elle a pas de... En fait, elle parle pas d'une situation qui évolue, elle expose comment est le monde de sa vision. Elle nous dit, voilà, c'est comme ça. Et c'est complexe, en fait. C'est hyper compliqué. Mais c'est ça qui est cool. C'est que, du coup, c'est très... assez ambigu et assez intriguant. Et pour faire une autre comparaison avec un autre type de cinéma qui fait beaucoup débat en ce moment, oui, elle utilise des clichés. C'est-à-dire que des deux côtés, t'as donc un peu les bobos bourgeois parisiens, tels que nous, bien sûr, par exemple. Et le cliché un peu du redneck, du coup francophone, hein, puisque c'est québécois. Et en fait, elle aurait pu se tenir à ces deux clichés et assumer que ce soit des clichés et se moquer d'eux, comme l'aurait fait par exemple tout ce qui est post-Oslund, etc. Alors, c'est un cinéma que des gens adorent, que des gens n'aiment pas, mais qui a un côté très cynique et qui revendique ce cynisme-là, c'est-à-dire de dire « Ouais, tout le monde est pourri et moi, de toute façon, je le dis et voilà, on est tous pourris, les riches, les pauvres, on est tous des merdes. » Mais ce qui rend le film de Chokri, je trouve, et son cinéma en règle générale, hyper humain, tout simplement, et qui, moi, par exemple, me donne une vraie, un vrai ancrage pas sentimental, mais émotionnel, c'est qu'elle met ce couple au milieu, en fait. Elle les balance entre deux, coincés dans ce petit interstice, et c'est difficile pour eux, et d'ailleurs, c'est un peu amer hein, comme film, mais c'est justement le fait que c'est des gens qui se battent pendant un film entier contre des clichés que le film leur impose, qui rend le film hyper touchant, et qui rend ces personnages-là, mais complètement précieux, c'est vraiment deux des plus beaux personnages que j'ai vus sur un écran cette année, quoi.
Oui, et surtout, quand tu dis le mot complexité, moi je le greffe tout de suite donc à la protagoniste. Et ce que j'aime aussi dans le cinéma de Chokri, c'est qu'elle crée pas des personnages féminins lisses. On n'est pas sur une belle histoire d'amour, et moi ce personnage principal féminin, qui est joué par Margali Lépine Blondeau, je le trouve très hypocrite. Il y a un côté assez infâme dans ce personnage qui essaie d'atteindre une sorte de supériorité morale, en tout cas pense avoir atteint une espèce de supériorité morale alors qu'elle est perpétuellement mise face à ses propres jugements quand elle va juger la cousine de Sylvain, donc voilà, qui est une femme avec gros seins, lèvres pulpeuses, jupe très courte, qui est en fait tout simplement la cousine de Sylvain avec qui tout simplement il danse parce que c'est un bal de famille. Enfin, c'est un personnage qui, je trouve, et pas du tout lisse et candide, au contraire, elle a un côté très acerbe, et la dispute qui éclate entre elle et Sylvain, je la trouve d'une force incroyable, parce qu'il y a tout le non-dit, tout le ressentiment qui est balancé, elle qui lui balance, être alcoolo comme ta mère, où là on est bien dans le jugement de classe.
Et puis l'engueulade à ce moment-là, ça sort tellement vite, et elle te filme ça de manière tellement, ça tire à balles réelles, que sur le moment, ça escalade tellement vite que ça te met toi au fond de ton siège, et tu dis putain, c'est chaud quoi.
Et voilà, et à partir de ce moment, je me dis... Je ne peux encore moins croire à cette histoire. C'est une histoire qui est belle parce qu'elle est très passionnelle, mais elle est belle parce qu'elle est éphémère surtout. Et quand à la fin, justement, Sylvain veut cristalliser cette union dans le mariage et dans vraiment tout ce qu'elle rejette, il y a ce plan vraiment très beau à la station-service où ils ne se regardent plus, c'est que des jeux de reflets entre la vitre, le rétroviseur.
Spoiler alerte.
Ouais, bon... ça reste quand même très beau, il faut le voir.
Mais en même temps, là où, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et j'adore le film aussi. Mais en même temps, tu vois, ce que je trouve moi très fort, c'est que tu dis, elle ne croit pas à cette histoire d'amour, Monia Chokri. Mais en même temps, ce que je trouve très réussi, c'est que clairement, elle, je pense en tant que cinéaste, n'y croit pas. Mais elle fait tout pour encapsuler, pour vraiment capter le point de vue de sa protagoniste, qui elle y croit envers et contre tout. Et c'est ça, moi, qui fait que le film me touche autant, parce que je vois bien ce que le film veut faire, mais tu pars avec eux en fait dans cette passion et dans ce truc dévorant, en sachant pertinemment que ça ne peut pas forcément bien se finir. Et ce qui fait en plus que, au-delà de l'humour, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, mais je trouve le film très drôle, et il pourrait effectivement se contenter d'être très analytique, notamment parce que son personnage principal est elle-même prof de philosophie qui parle de l'amour vu par les philosophes, et le film pourrait se contenter d'être très cérébral comme ça, mais au contraire il est extrêmement impulsif et extrêmement viscéral dans sa manière de capter les corps, notamment les scènes de sexe, que je trouve effectivement magnifiques. Mais au-delà de ça, le film, moi, il me prend aux tripes, et y compris dans le cringe parfois qui est assumé du film.
Tu parles de la demande en mariage, c'est ça?
La demande en mariage, mais moi, la première rencontre avec la belle famille, mais mon Dieu, je m'y suis tellement reconnu, c'est terrible. Mais quel enfer! Tu vois, c'est vraiment le truc où tu te dis, il y a deux mondes qui se rencontrent qui ne devraient pas se rencontrer, et où tu te dis, mais au fond, eux ils s'aiment et ça devrait transcender ces barrières là et en fait il y a ce truc là qui les rattrape quoi à ce moment là et le film est très fort.
C'est qu'elle garde de la tendresse même pour les autres, je pense notamment au personnage de la belle-sœur quand elle va dans notre famille, a priori ça pourrait être l'espèce de pouf un peu ridicule dont on se moque, et je suis vraiment d'accord avec vous, j'ai un peu moins aimé le film que vous, mais il y a plein de moments que je trouve assez brillants, notamment la tendresse qu'elle a pour plein de personnages et la tendresse qu'elle a pour Sylvain jusqu'au bout. Je sais que la scène à la station service, je trouve ça très beau parce que tu te dis c'est un peu genre sur la route de Madison où t'as un moment dans le silence un peu en suspens, est-ce qu'elle va y aller, est-ce qu'ils vont y aller. En fait ils comprennent tous les deux en silence dans l'ellipse, dans la magie de vous savez très bien, vous avez compris comme moi qu'en fait ils ont compris que c'était mort, et dans le silence de l'incompréhension, l'espèce de l'impasse, la fatalité de cette relation, en fait ça je trouve ça vraiment très beau.
En tout cas là pareil, film qui nous a pas mal passionné.
Plus conclure 5 secondes en profitant pour préciser, parce qu'on en a parlé sur Twitter et c'est vrai, que le cinéma québécois qui arrive en France en ce moment défonce, parce que moi dans mon top cette année j'ai mis On dirait la planète Mars qui est aussi excellent, et l'année prochaine ça continue parce que Les Chambres Rouges qui arrivent, qu'on a vu, toi Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant, qui, tout, des films qui sortent l'année prochaine sont aussi très bons et ils arrivent en France et c'est très bien.
Il y a toujours des films un peu à la lisière des genres et qui tentent des trucs un peu différents, et c'est ça effectivement qui nous
Falcon Lake l'année dernière par exemple.
Oui, je soutiens Judith, c'est vrai qu'il était dans le top, Lake, il était super bien.
Yes. En tout cas, bon, passons à la 7ème place. Alors celui-là, il était attendu et je vais pas parler longtemps parce que Déborah va forcément me prendre la parole. C'est le nouveau film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron.
Ouais, clairement, autant Si je verrai toujours vos visages et Simple comme Sylvain, c'était un petit peu les films surprises auxquels je m'attendais pas, que j'ai regardé comme ça, sait-on jamais. Le Garçon et le Héron, je savais.
C'était ton Christopher Nolan.
Ouais, c'est ça. Je savais qu'il serait au moins dans une des trois premières positions de mon top. Je le savais, c'était évident. Bon, voilà, pour recontextualiser un petit peu, Hayao Miyazaki, qui n'avait pas fait de film depuis 2013 avec Le Vent se lève, qui avait été un film qui, moins bien reçu, alors que ça fait paradoxalement peut-être partie des Miyazaki que je préfère. Et là, en plus, Le Garçon et le Héron, bah, évidemment, il y a le fait qu'au Japon, on a joué sur la non-promotion, qui était une stratégie de promotion, mais la non-promotion, pas de bande-annonce, pas d'affiche, on sait pas de quoi parle le film. Donc, toute l'aura de Miyazaki ressortait, même si, bon, on a eu la bande-annonce et les affiches internationales. J'ai cédé aux sirènes de la bande-annonce et je l'ai regardé, pas en entier, mais j'ai quand même regardé quelques images. Et oh mon Dieu, même si je me suis pas du tout forcée à aimer le film, hein, c'est un amour très très très
oui,
sincère.
C'est ce que tu dis.
Parce que comment je vous résume le film quand même,
s'il te plaît,
fait.
De résumer le film, Déborah.
Alors. Donc nous sommes avec Maito, un jeune garçon de 11 ans qui doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne parce que en fait Tokyo a été bombardé pendant la guerre, sa mère est morte et son père se remarie avec sa tante. Voilà, donc pas le point de départ le plus joyeux.
Ah, c'est Hawaii Met Your Mother en fait.
S'il vous plaît.
Un peu de respect pour Hayao, s'il vous plaît.
Voilà, donc un point de départ très terre-à-terre avec un schéma narratif qui se rapproche pas mal de Chihiro, et je pense que ça a été un point de comparaison qui a pas mal été soulevé, même si je trouve que c'est très 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 dommage et même un petit peu bête de réduire le film à une simple comparaison parce qu'il est beaucoup plus que ça. Honnêtement, j'ai mis un petit peu de temps à le conscientiser, ça a mûri un petit peu, et quand je suis sortie de la salle de projo, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est moi qui dois écrire la critique, par quel bout je vais prendre ce truc ?» Et au final, quand même assez rapidement, j'ai mis le doigt sur ce que je ressentais, que c'était la seconde partie d'un diptyque qui se formait avec Le Vent se lève, semi-autobiographique sur Miyazaki. Et ce film, je l'ai trouvé très surprenant parce que il y a un départ, une espèce de faux départ. On a l'impression que le film trébuche sans cesse et qu'il a du mal à se lancer, alors que tous ces petits trébuchages, en fait, ce sont des petites clés de lecture qui nous sont données, que je trouve très très intéressantes, notamment sur toute la notion d'héritage qui, d'après moi, est au centre du film, puisque on nous raconte l'histoire d'un grand-oncle très mystérieux qui s'est exilé dans un château mystérieux et qui, depuis, cherche un héritier pour maintenir ce château. J'ai pas l'impression qu'il faille être très très...
Un héritier qui ne s'appellera pas Goro, d'ailleurs, dans le film.
Voilà, faut pas être très 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 intelligent et avoir tout bien compris pour comprendre que, mine de rien, là, Miyazaki, en fait, essaie de préparer, je sais pas si c'est le monde, si c'est certains de ses proches, si c'est simplement le studio Ghibli, mais à sa disparition. Parce que mine de rien, il a quand même 82 ans, Isao Takahata est déjà mort en 2018, et depuis quelques années, il y a cette question de qui sera l'héritier de Miyazaki, comme si le fait de trouver un héritier était une évidence, était quelque chose d'obligatoire à la survie du studio Ghibli ou du cinéma d'animation japonais. Ce qui est évidemment une connerie sans nom, parce que on ne trouvera jamais l'héritier de Miyazaki, et c'est ce que le film nous dit pendant une bonne partie. J'avais l'impression que c'était un peu Miyazaki dans une démarche un petit peu ronflante, qui se parlait à lui-même, qui regardait un peu en arrière, qui regardait un petit peu ce qu'il avait pu créer, les pièges aussi, les obstacles et le piège dans lequel il s'était enfermé, son propre univers et ses obsessions. Mais il y a cette fin que je trouve bouleversante, parce qu'en fait il balaye tout ça d'un revers de main. Et moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, qu'il nous explique que non, il n'y aura pas d'héritier, mais Ghibli va survivre, le cinéma va survivre, et de lui il ne restera que des influences pour de futures générations, comme lui a pu être influencé par Walt Disney avant lui et tout ça. Enfin, il y a vraiment un côté passage de relais que je trouve très beau et très humble, là où paradoxalement au début j'avais quand même l'impression de voir un film Miyazaki, t'es un génie, tu le sais, t'as le boulard, tu l'exprimes, ça me dérangeait pas, mais finalement cette humilité que j'ai ressentie à la fin du film et à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est vraiment ce qui m'a bouleversée. Et vu que cette année la question de l'après, genre l'angoisse de ce qu'il peut y avoir après, de passer une espèce de nuage et de pas voir ce qu'il y a à l'horizon, c'est un thème, oui, une thématique qui m'a beaucoup parlé cette année, et là le film c'est 100% ça.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est en plus le film m'a pas mal bouleversé effectivement dans cette seconde moitié que j'attendais pas, parce que moi pour le coup, contrairement à toi, je me suis dit je ne regarde rien, j'ai pas vu un seul trailer, pas une affiche si ce n'est l'affiche japonaise qu'ils avaient sortie, donc j'y suis allé vraiment vierge de toute connaissance, et c'est pour ça qu'au début je me dis cool, il reprend un contexte, parce que faut le rappeler effectivement qu'à part Le Vent se lève et pour Corosso, il y a très peu de Miyazaki qui ont des contextes historiques précis, donc là la Seconde Guerre mondiale, et en fait du coup tu t'attends à un truc assez effectivement terre à terre, où en plus l'animation de Miyazaki sert surtout à mettre en valeur les détails du quotidien, comment l'image s'accorde au son pour te montrer justement le vent qui passe dans les herbes, ce genre de truc très beau, cette façon qu'il a de sublimer un peu la beauté du quotidien, et en fait d'un coup bam, le truc il vrille complet dans le surréalisme et dans l'absurde, et moi ce passage de l'autre côté du miroir, c'est là aussi que le film me chope pas mal, parce que même si j'ai clairement pas tout compris, et en le voyant je me suis dit heureusement que c'est Déborah qui a écrit la critique, parce je ne serais pas vu écrire sur ce film, et je le travaille encore beaucoup depuis que je l'ai vu, mais dans son rapport évidemment à la mort, à la renaissance, à justement ce passage de cycle, moi je vois aussi beaucoup ça, mais qui était déjà là chez Miyazaki, mais de questions de comment tu sauves les nouvelles générations du passage de flambeau, notamment à l'heure de l'éco-anxiété, je trouve que ça prend une autre forme encore dans ces nouveaux films, et là en particulier dans celui-là, moi ça me bouleverse énormément.
Moi je suis contente de vous en entendre parler, et merci Déborah du coup pour cet avis sur ton interprétation du film. Je trouve ça hyper intéressant, parce que moi c'est un film qui continue de grandir et de mûrir un peu en moi. Je crois que j'ai pas fixé complètement d'avis dessus, parce qu'en fait au départ je suis partie, j'étais assez décontenancée, parce que j'adore énormément certains films de Miyazaki, mais je pense que j'ai un rapport quand même moins exhaustif, moins intense que toi à son cinéma, et du coup c'est vrai que je pense que je m'attendais à réagir à des signaux peut-être plus artificiels, c'est-à-dire que j'ai été déçue que la musique soit pas aussi, tu vois, n'est pas une mélodie aussi identifiable et aussi présente que chez Princess Mononoke ou Chihiro, ce genre de choses. J'ai été un peu déçue entre guillemets que le message m'apparaisse pas plus clairement, qu'on soit pas dans l'émerveillement total des décors et de l'atmosphère comme certains auparavant, et pourtant là c'est parce que je le compare à d'autres Miyazaki, mais en fait si je le prends à l'échelle du cinéma d'animation et du cinéma tout court d'ailleurs, parce que l'animation n'est pas un genre en soi, c'est vrai que c'est une des propositions quand même les plus singulières, les plus étonnantes, j'ai pas envie de dire dérangeantes, mais les plus déstabilisantes on va dire de cette année, et c'est un film que j'ai vraiment envie de redécouvrir dans quelques temps, parce que il m'a étonnée. Je peux pas dire qu'il m'ait complètement séduite encore, mais par contre, je suis complètement d'accord pour dire qu'il se démarque complètement du reste de la production cinématographique.
C'est là que je raconte ce qui s'est passé dans ma projection presse où un enfant a vomi à côté de moi. C'est peut-être parce que c'était trop déstabilisant, mais du coup, à un moment, j'ai entendu un bruit, je me suis dit, il a pas dû vomir, c'est pas vrai. Et en fait, il avait vomi. Et il restait 5 bonnes minutes. Heureusement que c'était la fin, mais du coup, c'est un moment où le film devient visuellement absolument dingue et sensationnel. Et j'avais, du coup, c'était le cinéma 5D avec l'odeur, quoi. C'était... Donc voilà, merci beaucoup, petit enfant.
Oui, il a vu un enfant souffrir et il l'a mis dans son top, instantanément.
Après, pour le coup, je reviens sur ce que tu disais, Judith, sur le fait que le sens t'apparaissait pas clairement. Après, c'est clairement pas le but du film. Miyazaki lui-même a dit en interview « Je pense pas avoir tout compris à mon film ». Je trouve ça assez beau, parce que c'est vraiment nous donner l'objet cinématographique pour qu'on se l'approprie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et surtout, il y a une phrase dans le film à laquelle j'arrêtais pas de revenir. C'était en fait à l'entrée de ce monde fantastique. Sur le portail est écrit « Tous ceux qui essaieront de comprendre périront ». Et...
Putain, j'avais oublié comme c'est clair, c'est génial, quoi.
Donc voilà, c'est écrit sur le portail, la phrase est dictée à haute voix et tout ça, donc il n'y a pas tellement de... Enfin, évidemment que la phrase a un sens, et celui de ne pas essayer de le chercher. Et c'est là que je me suis mise face à mes contradictions, parce qu'on me demande de faire une critique, et forcément j'ai vécu une expérience que je considère riche et très intrigante, donc forcément j'ai un peu envie de l'intellectualiser, de la décortiquer, de mettre des mots, de trouver du sens justement là où le film me dit non, n'essaie pas de trop en chercher. Bah, moi je veux en trouver. Et le film m'a un peu challengé par rapport à ça, où je me suis dit, bon, est-ce que juste j'accepte d'être prise par la main et de me laisser embarquer, et que le récit fasse des détours et qu'il sache pas forcément où il veut aller à certains moments et tout ça. Enfin bref, est-ce que je me laisse prendre, ou est-ce que j'intellectualise le fait de se laisser prendre ? Enfin, ça a été pas mal de questionnements comme ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à écrire la critique. Hein. Genre, vous m'avez pas vu pendant des jours galérer en me disant, mais comment j'interprète
si,
tout
si,
ça ?
Si, je suis assis à côté de toi, je t'ai vu.
Ouais, je te rejoins là-dessus, parce que moi justement c'est un peu, en fait j'ai accepté en cours de route, tu vois, au début surtout dans la, une fois que tu démarres la deuxième partie, il y a tellement de, tu sens qu'il réveille tellement de choses dans un... dans quelque chose volontairement d'exhaustif, notamment dans ses références visuelles qui vont chercher du côté de la peinture classique, qui vont chercher du côté d'autres types d'animation, quand il arrive sur cette espèce d'île avec les sapins, où je me suis dit, ok, c'est l'île des morts, mais en fait au bout d'un moment, si t'essaies d'énumérer comme ça, tu te perds, et en fait au bout d'un moment je me suis dit, en fait je lâche prise, et moi c'est aussi pour ça que le film à ce moment-là m'a vraiment emporté. Bon.
Et les perruches, elles sont trop bien aussi.
Et les perruches sont très très bien, effectivement. Mais on pourrait en parler pendant des heures, et là aussi il faut qu'on s'arrête, parce que sinon on va aller beaucoup trop loin, pour passer au numéro 6, et on revient du côté de la France avec notre palme d'or de Cannes de cette année, Anatomie d'une chute de Justine Triet.
Absolument, donc là c'est un film dont je vais un petit peu, sur lequel je vais un petit peu prendre le lead, parce que c'est vrai que donc j'ai découvert à Cannes lors d'une séance qui m'a un petit peu mise par terre, dans le sens où, en premier lieu, j'étais pas sûre de savoir ce que j'avais pensé du film, mais ce que j'étais sûre d'avoir ressenti, c'est la longueur du film, mais absolument pas de manière négative. C'est-à-dire que le film a un travail de montage et de mise en scène, et de point de vue surtout, qui vous permet de ressentir physiquement le déroulé du procès et le déroulé de toutes les épreuves que traversent les personnages du film, qui... est vraiment une épreuve, c'est-à-dire que vraiment je trouve qu'on le ressent physiquement. Encore une fois, c'est absolument pas un défaut, parce qu'on ne s'ennuie pas, mais on ressent le temps long d'une manière particulièrement profonde, on va dire. Et au fur et à mesure, à chaque fois que j'ai repensé à ce film depuis, et c'est souvent, je lui découvre des nouvelles qualités et de nouvelles manières dont il m'a marqué. Donc voilà, c'est ce film dont l'actrice principale est Sandra Hüller, donc qui est un petit peu dans tous les films dans lesquels il faut être ces derniers temps. Voilà. Et donc c'est l'histoire de cette écrivaine, cette autrice qui est soupçonnée du meurtre de son mari, du coup, qui est donc tombée de manière mystérieuse et donc mort au bas de leur chalet dans la montagne, et son corps est découvert du coup par le jeune Daniel, qui est leur enfant et qui est malvoyant. Et donc en fait, ce qui est passionnant, c'est que Justine Triet s'applique en fait à ne jamais nous faire rentrer dans la tête de son personnage principal, donc qui est, son personnage s'appelle
Sandra.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis en train de me dire, j'ai envie de l'appeler Sandra. En même temps, c'est le nom de l'actrice. Mais bref, oui, effectivement. Et en fait, c'est très bizarre cette distance que ça met, le fait de ne jamais être complètement du point de vue du personnage principal, parce que à la fois c'est bien elle qu'on suit, et en même temps on n'est jamais dans sa tête. Donc ça instaure cette espèce de froideur et de distance qui nous change beaucoup en fait des rapports qu'on a habituellement au film, donc qui est là aussi déstabilisant. Mais en fait c'est passionnant, parce que justement toute l'idée, c'est de nous questionner sans cesse par rapport à cette subjectivité qu'on a par rapport au personnage principal. Et ça, c'est une mise en abîme qu'elle fait vis-à-vis justement de ce qui se passe dans un tribunal, parce que donc il y a beaucoup de scènes de procès, c'est un film de procès qui est d'ailleurs assez inspiré, comme l'indique le titre et comme l'indique Justine Triet tout court d'ailleurs, de Autopsie d'un meurtre de Otto Preminger. Et en fait, ce que Justine Triet raconte, c'est que dans le théâtre d'un tribunal, et c'est pas pour rien qu'on dit le théâtre d'ailleurs, c'est qu'en fait le récit qui va se faire de fait est toujours avant tout un récit, et donc fait de manière subjective et entendu aussi par des oreilles subjectives, et qu'en fait à partir des faits réels, de ce qui s'est passé et les choses auxquelles on n'a pas assisté, on est obligé de créer une histoire. Ce sera toujours une histoire, même si elle est inspirée de faits réels. Et à partir de là, du coup, comment est-ce qu'on trouve la vérité, comment est-ce qu'on retrouve la vérité? Et donc surtout à travers un personnage d'accusé comme celui de Sandra, qui est tout ce que la société n'aime pas chez une femme, c'est-à-dire qu'elle est mal aimable, elle est sûre d'elle, elle est ambitieuse, elle est froide, elle est bisexuelle, on a l'impression, en tout cas les gens ont de plus en plus l'impression que peut-être elle avait un côté castrateur vis-à-vis de son mari, ce genre de choses. Et donc au fur et à mesure, comme on la suit elle et qu'elle est relativement mal aimable et qu'on n'arrive pas à entrer dans sa tête, on commence à se demander si finalement on n'a pas un petit peu envie qu'elle soit coupable, où on se dit mais en fait ouais c'est sûr elle est coupable, puis après la scène d'après on se dit mais en fait non, et surtout ça nous questionne sur pourquoi est-ce qu'on a cette impression ou ce désir qu'elle soit coupable. C'est justement parce qu'on marche complètement dans les mêmes préjugés, on va dire, que les autres personnages. Et donc je sais que Justine Triet a beaucoup mis en avant le fait que c'était aussi un film qui disséquait le couple, et c'est vrai hein, mais je trouve que avant toute chose, c'est surtout vraiment un film qui dissèque complètement le regard subjectif qu'on peut porter sur les femmes, mais surtout sur les accusés, en fait, dans un tribunal. Et ce qui veut pas dire... D'ailleurs, elle le disait lors d'une interview elle-même, ça veut pas dire que la justice ne fonctionne pas. Enfin, bien sûr que parfois, elle fonctionne pas, mais ça veut pas dire que c'est un système qu'il faut rejeter, mais c'est un système qu'il faut sans cesse questionner et qui n'est jamais garant d'une vérité absolue. Et en fait, je trouve que le film est magnifiquement mis en scène par rapport à ça et très très bien interprété aussi.
Pour revenir à ce que tu disais par rapport à au premier visionnage du film, je l'ai vu juste avant Cannes et j'ai exactement eu le même ressenti que toi. C'est-à-dire que quand j'en suis ressorti, j'ai trouvé que j'avais beaucoup aimé le film, mais je l'avais trouvé assez froid, assez distant vis-à-vis des personnages, et je trouvais que justement il manquait quelque chose de ce côté émotion, ressentir, parce que comme le personnage de Sandra en plus est très froid, elle est vraiment distante vis-à-vis de même de son fils d'ailleurs. Enfin, elle n'est pas très avenante, quoi. Et je trouvais qu'il manquait un peu de ça, finalement, au film, de ce côté émotion. Et en fait, à force d'y réfléchir, d'y repenser, j'ai trouvé que le film était plutôt très réussi dans cette capacité à justement ne pas nous faire rentrer dans sa tête. Ce que tu dis, c'est à ne pas nous laisser emporter par ce qu'elle veut faire croire ou ce qu'elle a vraiment fait, on ne sait pas, mais juste qu'on l'observe, qu'on regarde. Je trouve très beau la manière dont elle filme l'actrice régulièrement, notamment quand elle s'entraîne pour son procès avec son avocat, qui est joué par l'excellent...
Swan Arlo.
Voilà, Swan Arlo, merci. Et la manière dont elle filme ses mains, la manière dont elle les bouge, de comment en fonction de ce qu'elle va dire, elle va les joindre ou justement être beaucoup plus... expressive dans sa gestuelle, etc. La manière dont elle va un peu ouvrir sa bouche ou justement la refermer, avoir un petit passement de lèvres ou ce genre de choses. Et du coup, on se fait toujours une sorte de film vis-à-vis de ça. Et je trouve que d'ailleurs, le film raconte énormément de comment on crée un film en lui-même, comment on reconstitue une séquence. Enfin, quand il reconstitue la séquence du jeune Daniel pour savoir s'il a entendu ses parents ou pas, depuis l'extérieur, est-ce que c'est possible ? Et que du coup, on fait jouer des policiers comme des acteurs pour savoir s'ils ont la bonne tonalité, s'ils parlent plus fort, s'ils parlent moins fort, est-ce que c'était possible ou pas ? Et toute cette reconstitution vis-à-vis du personnage, de comment elle se raconte une histoire elle-même potentiellement, puisqu'on joue les avocats de la défense, pas de la défense, les avocats de la partie civile, enfin le procureur général en l'occurrence, mm-hmm. procureur de la République, qui vient raconter des horreurs d'ailleurs par rapport à son livre de fiction, de comment en fait elle avait potentiellement préparé ce meurtre et que sa fiction racontait ce qu'elle allait faire dans le réel. Je trouve ça très joli, notamment en plus quand tu disais qu'on se pose la question de si elle est coupable ou pas au fur et à mesure du film. Moi, je trouve qu'il y a j'avoue que j'ai pas d'avis arrêté sur la fin, peu importe d'ailleurs, mais souvent je me dis, peut-être, tu vois, qu'elle est coupable par rapport au moment donné où elle dit, quand je réfléchis à mes livres, à mon art, à ma fiction, je réfléchis en anglais, et à partir du moment où souvent elle est un peu en galère dans le procès, elle commence à parler en anglais. Et je me dis, c'est plus facile pour elle de raconter une histoire, de s'y repérer, de s'y retrouver et de retomber sur ses pattes pour éviter d'être jugée coupable, etc. Mais c'est vachement intéressant de toute façon le film de voir à quel point il juge pas non vraiment, comment le système ne juge pas vraiment ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme infidèle avec son mari potentiellement, qui a réussi plus qu'un homme, etc. Et comment du coup elle est pointée du doigt par tout un système qui la trouve comme pas normale parce que c'est pas forcément la place d'une femme selon certains dans la société, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc je trouve que c'est un film assez complet finalement et qui m'est beaucoup revenu pendant toute l'année.
Ouais, je suis assez d'accord parce qu'en plus je trouve cette année on a quand même eu deux grands films de procès parce qu'il y a eu Anatomie d'une chute et à Cannes en quinzaine des réalisateurs il y a eu également le procès Goldman de Cédric Kahn, et je trouve que les deux films se complètent extrêmement bien. Merci Mathieu.
Il
attendait de la sortir.
20 minutes pour une prochaine intervention.
Mais les deux films en fait se complètent bien parce qu'ils posent une question assez belle, je trouve, de limite du cinéma. En fait, comment tu passe par l'image, la barrière justement de la psyché des personnages que tu veux ausculter, et en fait l'incapacité qu'il y a à faire ça. Alors en l'occurrence dans le procès Goldman, je trouve ça encore plus fort parce que t'auras aucune reconstitution d'aucun événement, tu te bases entièrement sur la parole et les témoignages des gens qui sont présents dans le procès. Là où je trouve qu'en même temps c'est intéressant comment Justine Triet switch parfois d'un document, notamment de cette fameuse conversation enregistrée qui, où tu vois ensuite l'image de cette dispute qui est assez horrible en plus. Donc je trouve qu'il y a ce truc où effectivement je suis comme vous, moi j'ai été assez mis mal à l'aise, où moi c'était plutôt t'as envie de la croire évidemment innocente en te disant j'attends de voir justement en tant que femme pourquoi elle va forcément être plus prise à partie comme potentielle coupable à cause de certains éléments de sa vie et de comment elle se définit en tant que femme. Et en fait en cours de route tu te retrouves mal à l'aise à te dire en fait est-ce qu'elle est pas coupable quand même, et le film essaie de m'avoir depuis le début. Et je trouve que cette ambiguïté là que le film traduit en plus avec ses acteurs qui sont tous géniaux de subtilité, t'as qu'une envie là aussi, c'est toi d'ausculter le truc comme si t'étais membre du jury, à te dire mais qu'est-ce qu'ils pensent à cet instant T. Et cette incapacité que tu as à comprendre ce que ces personnages là ressentent vraiment, je trouve que ça te renvoie à quelque chose de très pur du cinéma, de la limite en fait que représente l'image. Et c'est là que je trouve que ça fait quand même, je suis moins emballé que vous par le film en général, mais je trouve quand même que c'est une très très belle performance.
Et par rapport d'ailleurs au fait d'observer un peu les personnages, je trouve que c'est magnifique que le film soit énormément porté par rapport au regard de l'enfant, du fils, qui lui-même en fait ne voit pas. Donc c'est vraiment l'histoire d'un ressenti, de comment on interprète les choses, de comment lui va interpréter une parole de son père d'il y a plusieurs années, parce que ça lui revient soudainement et que pour lui c'est un indice sur la culpabilité ou non de sa mère. Je trouve ça très beau comment le film justement nous montre que en vérité on peut pas vraiment voir la vérité justement, mais qu'on ne peut que l'imaginer ou la ressentir ou espérer trouver celle qu'on pense espérer que celle qu'on pense est la vérité ou pas.
Oui, mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est toute cette affaire d'interprétation. Et comme j'avais pas tout vu de Justine Triet, après Anatomie d'une chute, moi j'ai rattrapé Sibyl, qui était sortie il y a quelques années avec Virginie Efira, et qui raconte là aussi l'histoire d'une femme. Là, on est beaucoup plus dans un univers de fiction, parce que du coup, ça se passe sur un plateau de tournage. Mais donc, c'est l'histoire d'une femme qui est psy, donc qui a rien à voir au départ avec le monde du cinéma, mais qui finit par un petit peu s'immiscer sur un plateau de tournage et par, reconnaître un petit peu les histoires de sa propre vie dans le film du tournage auquel elle assiste. Et à la fin, quand elle voit ce film, et qu'elle voit les éléments de sa vie racontés sur l'écran, là elle se met à pleurer comme si enfin elle était capable de comprendre et de digérer les événements de sa propre vie. Encore une fois, ça passe par la fiction et par le récit. Et donc là voilà, on était dans un univers complètement de cinéma, mais Justine Triet remet ça sur la table là dans l'univers au contraire du tribunal, et montre à quel point même au niveau de la justice et des simples faits et toute la froideur qu'il peut y avoir dans le système français, dans la justice qui se veut toujours la plus objective possible, enfin voilà, dans l'idéal, mais même là en fait ça n'est effectivement qu'à faire de ressenti et de représentation. Et ouais, tout ce discours sur le récit, moi je le trouve finalement brillant, et c'est ça qui a fini par complètement prendre le dessus pour moi vis-à-vis justement de ce que tu disais sur peut-être un certain manque d'émotion au départ. C'est une puissance qui continue de grandir indéfiniment après avoir vu le film.
Ouais. Et on conclura en rappelant que le film a aussi l'un des meilleurs chiens acteurs qu'on ait vu au cinéma depuis longtemps.
Il a eu la Palme d'Og.
Et il a eu la Palme d'Og, bien mérité d'ailleurs. Bon, comme d'hab, le problème c'est que vous savez pas trop vous tenir, parce que moi j'avais prévu qu'on fasse qu'une heure de réu pour l'entièreté de ce top, mais on a à peine fait la moitié, alors que l'idée c'était juste à la base de papoter pour ensuite se dispatcher les films pour les articles et les vidéos à venir sur le site liés à ce top 10. Bon, je suppose qu'en même temps on avait encore beaucoup à décanter sur tous ces films, donc pas le choix, même si on s'amuse bien, je mets fin à cette réu.
Oh.
Je sais, le suspense est insoutenable pour tout le monde, mais on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur les 5 premiers films du top. Et en fait, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas enregistré cette revue, parce que, bah, encore une fois, ça aurait fait un super podcast si Écran Large se décidait à en faire un. Mais bon, pour ça, il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir, parce que ça reste le plus important.
Et oui.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free.
Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.